Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
Chers téléspectateurs, chers amis, bienvenue pour cette série sur le thème « L'unité universelle parle », la parole de l'esprit créateur universel, dont vous suivez aujourd'hui la 16e partie. Nous poursuivons aujourd'hui la lecture du livre servant de base à nos émissions, une œuvre cosmique d'enseignement et d'apprentissage donnée à l'école de la sagesse divine, basée sur des entretiens avec Gabriel, la prophétesse et messagère de Dieu à notre époque. Nous en lirons aujourd'hui la postface qui résume et approfondit cette grande œuvre et qui porte le titre « L'éther de lumière infinie et éternelle » qui est la substance primordiale à partir de laquelle celui qui est infini, l'éternel, le Dieu primordial, puise et donne forme. Au fil de cette série, il nous a été expliqué que les hommes ne sont que des pèlerins sur terre. Dans le royaume de Dieu dont nous sommes originaires et dans lequel chacun retournera un jour, nous sommes des êtres de matière subtile pure, des êtres spirituels formés à partir de la substance originelle qu'est l'éther de lumière, la loi éternelle, Dieu, l'un universel. Ayons cela en conscience lorsque nous entendrons maintenant les approfondissements qui vont suivre et qui portent d'une part sur les terres de lumière, mais d'autre part sur nous, les hommes, sur les conceptions religieuses qui se sont établies au cours des siècles, ainsi que sur l'état dans lequel se trouve l'humanité aujourd'hui. Chers amis, si vous le voulez, rejoignez-nous dans cette réflexion.
Majesté, Excellence, Éminence, mon révérend, Sa Sainteté, Saint-Père sur terre, Cardinal, Évêque et autres titres pour marquer l'importance toute particulière d'éminentes personnalités. Pourquoi tous ces titres? Et pourquoi toutes ces richesses qui y sont souvent liées? Argent, bien, propriété et autres. Pourquoi? Jésus de Nazareth a enseigné autre chose. Il est rapporté qu'il dit à peu près en ces termes : La gloire, je ne la tiens pas des hommes, mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous refusez de me recevoir. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui tenez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul?
Il dit également, à peu près en ces termes, « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » Il nous a enseigné, « Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, autrement dit prêtre, pasteur, car un seul est votre maître, le Christ, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. D'autres paroles de Jésus sont rapportées comme suit. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me reconnaissez, vous reconnaîtrez aussi mon Père.
Voici un autre événement rapporté de la vie de Jésus. Un homme s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai obéi à tout cela, que me manque-t-il encore ? Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. »
Chers amis, nous ne voulons pas uniquement faire la lecture de ce dernier passage du livre, mais réfléchir au contenu de ce qui est écrit. Pour cela, laissons ces mots résonner profondément en nous. L'éther de lumière, c'est l'esprit omniprésent et intarissable, l'intelligence suprême, le Dieu primordial de l'infini. Il existe de nombreux noms pour qualifier l'éternel. Celui qui est infini, ainsi que l'éternité. En Occident, l'un universel est appelé Dieu. Dans cet ouvrage, il n'est cependant pas question du Dieu des Églises qui, soi-disant, habite dans des maisons faites de main d'homme. Il est question ici de l'esprit universel, de la lumière universelle suprême, de la vie omniprésente en vous, en chaque être humain. C'est l'esprit universel qui habite dans toutes ces formes de vie et en tous ces êtres vivants, qui anime tout ce qui est de son courant de vie, qui est éternel et que nous, êtres humains, avons la chance de pouvoir tout simplement appeler Père. Si vous le voulez bien, accompagnez en pensée les paroles suivantes et laissez-les s'écouler dans votre cœur. Lui, l'un universel, est le Père de tous ses enfants. Il est le Créateur de l'existence véritable, de toutes les formes de vie divine, de tous les êtres divins. Il est le Dieu Père-Mère. Il est l'amour éternel dont le rayonnement traverse et emplit toutes choses. Il est notre Père céleste, le Père de tous ses enfants. Pourquoi alors tous ces titres que se donnent les hommes ? Quelle est leur signification alors qu'ils devraient en être sur terre comme au ciel ?
Laissons également ces paroles de vie devenir vivantes en nous. Notre Père, toi qui es aux cieux, ton nom est sanctifié. Notre royaume vient, ta volonté se fait sur la terre comme au ciel. Tu nous donnes aujourd'hui notre pain quotidien et tu nous pardonnes nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu nous guides lorsque nous sommes dans la tentation et tu nous délivres du mal, car c'est à nous qu'appartiennent le royaume, la force et la magnificence d'éternité en éternité.
Auch hier die Frage.
Une question se pose également ici. Que veut nous dire le Notre Père, tout particulièrement à ceux qui en Occident se disent chrétiens? Son message est entre autres que nous, êtres humains, nous pouvons nous adresser à la puissance universelle, à l'être universel, au Créateur éternel de toutes les formes pures en disant « Père, notre Père ». Si nous vouons notre vie terrestre à notre Père céleste dans la conscience que nous sommes son fils ou sa fille, sans nous affubler de titres, mais en accomplissant sa volonté qui est contenue dans les 10 commandements ainsi que dans le sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth, nous commençons alors à vivre véritablement, car c'est uniquement en suivant ce chemin que nous apprenons à nous connaître véritablement. Ce n'est qu'alors que tout peut se renouveler en nous, dans nos sensations, dans nos pensées. Nous devenons alors un nouvel homme, dans l'Esprit de Dieu, dans le courant de la vie, dans la loi de la lumière éternelle qui s'écoule en et autour de toute existence, dans tous les cosmos, en toute forme de vie et en chaque être. C'est l'amour pour Dieu et pour le prochain, la source intarissable de la vie, l'existence pure, la loi de l'infini, le souffle de la vie, le Dieu, Père, Mère, de l'amour éternellement.
Nous avons désappris à réfléchir à ce qu'est l'amour pour Dieu et pour le prochain. Les experts de ce monde préfèrent réfléchir à l'énergie atomique. La science, tout comme la religion, pêche en eau trouble, tout particulièrement en ce qui concerne Dieu. Comme cela a déjà été expliqué, tous les mots et les termes exprimés à partir de la loi universelle de Dieu sont issus d'un vocabulaire insuffisant car appartenant aux trois dimensions. Tout ce que nous savons sur Dieu et toutes nos connaissances scientifiques sont loin d'être des preuves. Tout repose sur la foi, voire sur des hypothèses, sur ce qui pourrait être, mais ne l'est pas forcément. Personne ne peut apporter la preuve de la véracité de ce qui est dit ou écrit, et personne ne peut non plus donner la preuve de l'existence de Dieu. Vous seul pouvez vous apporter la preuve de ce qu'est la vérité, car en vous-même, au plus profond de votre âme, se trouve le noyau central, universel et éthérique, le cœur primordial, l'éther de lumière, la communication universelle qui s'écoule en toutes choses. Au plus profond de vous se trouve la vie, contenue dans le noyau central, et c'est la preuve que vous êtes entouré, enveloppé par l'Esprit de Dieu, la lumière éthérique infinie et intarissable, qui est l'amour absolu et l'amour pour le prochain.
Chers amis, à cet endroit du livre, il est fait la remarque suivante. On parle de croire en la science, de croire en Dieu. On entend beaucoup plus rarement dire « J'aime Dieu et je m'efforce chaque jour de faire sa volonté ». Si vous le souhaitez, laissez vibrer en vous, dans votre conscience, ce que vous entendez. Que puisse mûrir en vous la prise de conscience que ce que vous entendez et pouvez accepter enrichira votre vie si vous l'accomplissez. Ainsi, vous pressentirez qu'il y a quelque chose qui va au-delà que de simplement croire au bon Dieu, entre guillemets.
Toujours si vous le souhaitez, libérez-vous des pensées mécaniques, entre guillemets, qui sont propres à la plupart des religions, et ressentez ce qui est au plus profond de vous-même, car la réponse à ce que vous entendez est en vous, au plus profond de votre âme. Et n'ayez de cesse de vous rappeler que Dieu est amour. Les nombreuses paroles et professions de foi dont l'intention est de prouver l'existence de Dieu ne sont pas des preuves. Il n'existe aucune preuve extérieure de l'existence de Dieu. Il n'existe aucune preuve extérieure de l'existence de l'éther de lumière qui est la vie à l'origine de tous les univers, de toutes les formes de vie et de tous les êtres vivants. Il existe cependant une preuve et vous la portez au plus profond de votre âme. Chaque mot est comme une enveloppe, une coquille. Il faut apprendre à se rapprocher du contenu du mot qui ne peut être transmis que de manière insuffisante par le vocabulaire appartenant au plan tridimensionnel. C'est pourquoi écoutez avec le cœur et la raison.
Chers amis, écoutons maintenant les explications concernant l'éther de lumière. L'éther de lumière, la force la plus puissante qui soit, est la loi de l'infini, la communication universelle. Nous pouvons également parler d'un réseau universel de communication dans lequel évoluent tous les univers, tous les astres, tous les êtres divins, tous les hommes et toutes les formes de vie. L'éther de lumière dont il est question au début de cet ouvrage et également dans la conclusion de celui-ci est la force universelle la plus puissante qui soit et qui s'écoule en tout. Il s'agit d'un volume d'énergie intarissable et incommensurable pour l'entendement humain. Il n'existe aucun mot permettant d'exprimer, même de très loin et imparfaitement, la plénitude énergétique, la puissance extrêmement élevée de l'éther de lumière. Tout, absolument tout, est accueilli, immergé dans cet éther de lumière qui comprend toute existence et qui s'écoule en tout. C'est l'esprit universel, le Dieu universel, appelé également Dieu primordial, la force infinie de l'amour. Dieu est esprit. L'infini tout entier est empli de son esprit, de sa loi qui est amour. Tout ce qui est, est immergé dans l'amour du prochain, dans l'éther de lumière qui s'écoule à travers toute chose. Le noyau central au plus profond de chaque âme est, en tant qu'essence, l'amour cosmique, le Dieu primordial en vous et en chacun de nous, la lumière issue de sa lumière.
Même s'il est dit ici que vous, que nous tous, sommes issus du souffle de Dieu, qu'en nous se trouve Dieu, l'amour éternel, et que nous sommes tous traversés du courant de l'océan de l'amour, de l'éther de lumière, l'esprit omniprésent, le Dieu primordial, cela est loin d'être une preuve. Dans notre monde, il existe de nombreuses hypothèses et conceptions concernant l'éther de lumière, appelé également éther. Et pourtant, aucun auteur qui aura disserté sur les interactions énergétiques, sur la vie ou sur l'unité universelle, ne peut apporter la preuve de l'existence de l'éther de l'existence pure. En outre, le monde scientifique publie régulièrement des écrits sur les quatre forces de la matière, en employant des mots qui varient selon les cas. Il parle aussi du noyau atomique, auquel il donne également différentes dénominations, et il parle de tout ce qu'il est possible de faire avec des énergies. Pensons par exemple à l'énergie atomique qui, en fin de compte, comme toutes les énergies, est une forme dégradée de la force divine de création dont l'homme abuse de la manière la plus brutale qui soit. On entend et on lit beaucoup de choses sur les quatre forces de la matière. Les énergies de la matière ne sont rien d'autre que de l'éther dégradé, densifié. La profondeur de l'infini l'éther de lumière infinie et tout ce qu'il contient ne pourra jamais être cerné totalement par un cerveau à trois dimensions, et encore moins si on écarte de cette tentative Dieu, l'esprit universel, la plus haute intelligence, sa force de création qui est l'amour pour Dieu et pour le prochain, et que l'on transforme cette force en égoïsme, en égocentrisme, en haine, en guerre et autres actes horribles.
In Hass, Krieg und Gräueltaten.
En réalité, on pêche en eau trouble en pensant qu'un jour on finira bien par tout expliquer. Sans tenir compte de la substance intrinsèque de l'éther de lumière, la force porteuse la plus puissante qui soit et qui s'écoule en tout, l'amour, l'homme ne peut rien atteindre et encore moins prouver quoi que ce soit de façon complète et en profondeur. L'éther de lumière est la force atomique lumineuse la plus élevée qui soit. Tous les atomes éthériques spirituels ont un noyau central, un noyau primordial composé de bonté, d'amour et de douceur. La bonté et la douceur de l'Éternel sont rassemblées dans son amour. Ce sont là les trois attributs de Dieu, le principe Père-Mère qui est l'amour, la force suprême. L'amour de Dieu et du prochain est la force motrice qui initie la conception et la création de toutes les formes divines. L'amour est le noyau atomique spirituel, le noyau primordial de l'infini. Autour du noyau atomique spirituel tournent les quatre forces primordiales, appelées également forces élémentaires. Somme toute, c'est la loi de la création du Dieu primordial qui est l'éther de lumière qui s'écoule infiniment.
Dans l'éther de lumière infinie qui s'écoule et qui communique universellement, que l'on peut également qualifier d'océan universel, se trouve le puissant royaume de Dieu ainsi que tous les autres domaines de matière subtile appelés également cosmos et qui sont liés, comme le cosmos matériel, à la pensée de la chute et aux êtres qui se sont détournés de Dieu.
Der materielle Kosmos.
Toutes les formes de vie, tous les êtres et tous les hommes, sans aucune exception, sont entourés de l'éther de lumière éternelle de l'infini. Qu'il s'agisse des formes de vie divines, des êtres spirituels purs, ou qu'il s'agisse des êtres qui se sont détournés de Dieu, ou encore des animaux, des plantes ou des hommes, tout, véritablement tout, est entouré de l'éther de lumière intarissable de l'infini et est traversé du courant de celui qui est infini. Exprimé avec nos propres mots, tout vit. Nous vivons tous, c'est-à-dire que nous évoluons tous dans le puissant océan divin.
Le noyau primordial est l'énergie motrice de l'amour pour Dieu et pour le prochain. Celui qui ne cherche pas à la connaître et à la comprendre, qui ne la reconnaît pas en tant que telle et n'y conforme pas sa vie, ne pourra jamais réaliser, comprendre que l'éther de lumière est la loi primordiale de l'infini, le noyau atomique primordial au cours duquel gravitent les quatre forces primordiales, les forces de création de Dieu. Le principe agissant dans toute l'éternité est le noyau primordial, l'amour de Dieu, ainsi que, comme cela a été exposé précédemment, les quatre forces primordiales des énergies créatrices de l'éternel. Quelle que soit l'époque, l'humanité ne s'est jamais orientée sur Dieu, sur l'amour pour Dieu et pour le prochain, mais s'est toujours tournée vers les substances de combat venant de l'intellect, vers les quatre forces primordiales dégradées, inversées. Le résultat, on peut le constater tous les jours à l'état du monde. Mais comme cela a déjà été expliqué, la pensée de la chute visant à la dissolution de la création à tout ramener dans l'éther pour pouvoir ensuite concevoir et créer soi-même, n'a pas pu être réalisée. Elle n'a pas atteint son but. Les êtres qui se sont détournés de Dieu ont pratiquement épuisé le potentiel d'énergie suprême qu'ils avaient emporté dans leur chute. Il est maintenant au point zéro.
Parce que les choses sont comme elles sont, l'humanité dégénère de plus en plus et avec les dernières forces négatives qui lui restent, elle lutte contre l'amour de Dieu, contre le monde animal, végétal et minéral. La machinerie meurtrière est en pleine action. Il est possible de prendre à l'Éternel une poignée d'éther de lumière éternelle et, pendant un temps limité, d'agir uniquement avec quatre forces. Il est possible de s'opposer à l'amour pour Dieu et pour le prochain et de dépenser, c'est-à-dire de dégrader, ces quatre forces créatrices. Il est possible de fabriquer des arsenaux d'armes voués à tuer. Nous sommes capables de construire des avions, des bateaux et autres moyens de déplacement. Nous sommes aussi capables de construire des usines nucléaires. Nous sommes capables de construire des satellites et de les envoyer tout autour de la Terre. Nous essayons de concevoir et de construire des avions spatiaux. Cependant, nous ne pourrons pas conquérir les planètes de l'univers et en faire nos planètes d'habitation, car nous manquons d'amour pour Dieu et pour le prochain.
Nous sommes capables de maltraiter et de tuer volontairement les animaux, c'est-à-dire les êtres issus de la pensée créatrice de Dieu, de son amour. Nous sommes capables de les abattre pour nous en nourrir. Nous sommes capables de faire des expériences sur les animaux. Nous sommes capables d'exploiter la terre à outrance, d'essayer sur elle les armes que nous avons construites. Nous sommes capables de construire des barrages et d'intervenir dans l'écoulement des cours d'eau. Nous sommes capables de construire des gratte-ciels. Cependant, en agissant ainsi, il ne nous est pas possible de ramener à son état d'origine l'énergie suprême donnée au moment de la chute et de retrouver ainsi l'éther de lumière qui est la vie. Toutes les générations de l'humanité ont échoué.
La vie de l'un universel est l'amour qu'il porte à sa création universelle dans laquelle est contenue l'existence universelle. Nous avons atteint le point où le quantum d'énergie divine emporté lors de la chute est pratiquement épuisé. L'Éternel reprend la vie pour la ramener dans l'éternité. Les hommes de toutes les générations ont à ce point dégradé et utilisé à des fins cruelles la poignée d'éther de lumière qui leur avait été confiée, qu'elle ne suffit pratiquement plus à faire tourner la turbine de leur ego, qui n'est qu'ignorance humaine.
La science qui, comme il a été dit, pêche en eau trouble, ne trouvera pas le noyau primordial, la force motrice dans l'éther de lumière, car d'une manière générale, la communication n'a pas été établie avec l'éther de lumière. Et là où il n'y a pas de communication, rien ne peut se faire. À toutes les époques, l'humanité a plus ou moins rejeté l'amour de Dieu et du prochain parce qu'elle aimait la pensée de la chute, le narcissisme bouffi d'orgueil, dont la devise est « Je suis moi-même mon prochain, je ressemble à Dieu, voire je suis Dieu lui-même. » Celui qui agit pour lui-même perdra.
Celui qui agit pour ce qu'il y a de plus élevé, l'amour, gagne. Car l'amour est la substance porteuse de toute vie, de toute existence. L'amour envers les règnes de la nature, l'amour envers chaque planète, l'amour envers le monde animal et végétal, envers chaque minéral, l'amour pour le prochain, l'amour envers toute la création.
Wo ist die Liebe geblieben?
Où est passé l'amour? Dans la recherche scientifique effrénée, voire dans les édifices faits de main d'homme dans lesquels il faudrait aduler un dieu d'église? L'amour est la loi de la liberté, telle que Jésus de Nazareth nous l'a enseignée. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu est l'unité universelle. Ce n'est pas de l'amour physique dont il est question, mais de l'amour de Dieu et du prochain.
De tout temps, les hommes ont tenté de conquérir la planète Terre de manière brutale et de prendre possession de ce qui appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, on peut reconnaître que ce n'est pas l'homme qui a pris possession de la Terre, mais que c'est la Terre qui reprend l'homme qui, de fait, lui appartient, car la Terre retourne à la Terre. L'humanité n'a pas appris à utiliser à des fins pacifiques l'éther de lumière qui est en soi l'unité universelle à laquelle appartiennent toutes les formes de vie divine, toute existence pure. Les êtres de la chute et les hommes de toutes les générations ont eu leur temps. La transformation est en cours de la matière dense et grossière à une matière plus subtile et d'une matière plus subtile à une matière subtile pure. Progressivement, période après période, l'Éternel ramène à lui la poignée d'éther de lumière. L'humanité n'a pas mis à profit le temps qui lui était imparti. Il suffit de regarder d'un peu plus près le volcan bouillonnant et par trop humain qu'est l'humanité d'aujourd'hui pour voir à quel point la dégénérescence de l'espèce humaine est avancée. Aujourd'hui, l'homme est encore homme. Demain, il sera peut-être l'homme de Néandertal. Et ensuite, où mènera ce développement?
Selon nos conceptions humaines des choses, c'est-à-dire tridimensionnelles, il n'est pas possible de chiffrer cette évolution, même si la science parle de milliards ou de millions d'années. Notons toutefois que cette évolution a eu lieu vers le bas, vers une masse toujours plus dense et sombre. On parle d'éons. Cependant, l'être humain n'est pas en mesure de les calculer. Ce qui est sûr, c'est que l'essence de l'énergie universelle de création de l'infini est contenue dans cette poignée d'éther de lumière, car tout est contenu en tout. Aveugle et sourde, prisonnière de la superstition, l'humanité se meut dans le principe, divise, lit et domine. On peut comparer l'homme à une plaque de glace flottant sur le gigantesque océan universel, l'éther universel, l'existence universelle. Pour garder notre image, l'homme, la plaque de glace flottante, cherche toujours à se raccrocher aux icebergs, à la science et aux religions, pour pouvoir éventuellement s'y arrimer et y trouver la sécurité. Tant que l'être humain ne se met pas lui-même en recherche, avec les mots les plus simples qui soient, Dieu, l'amour infini en moi, Dieu en nous tous, dans toutes les formes de vie de la création, dans les règnes de la nature, tant qu'il ne se mettra donc pas en recherche, ni l'être humain, ni son âme ne parviendront à Dieu, le Père céleste, à l'éther de lumière, à la source de l'éther de lumière, dont la puissance est la plus élevée qui soit.
Chers amis, dans le livre que nous lisons, ce chapitre se termine en annonçant déjà le contenu du chapitre suivant. Je cite, « Chers amis, vous vous intéresserez certainement au récit sur la formation de la Terre qu'un scientifique a rassemblé pour ce livre, et donc pour notre prochaine émission de la série, l'unité universelle parle, la parole de l'esprit créateur universel. Un conseil est donné déjà aujourd'hui aujourd'hui. En les écoutant, vous pourrez éventuellement en retirer quelque chose pour vous-même et comprendre certaines phrases dans la conscience que nous vivons tous, symboliquement parlant, dans le gigantesque océan de l'éther de lumière éternelle et intérissable, l'océan de Dieu, l'éternel, l'intelligence éternelle, la force créatrice que nous, ses fils et ses filles, pouvons appeler Père. Lorsque vous entendrez parler de l'histoire de la Terre, repensez à l'œuvre de création de Dieu. Dans une poignée d'éther de lumière, tout est contenu en tout. Les hommes de toutes les époques n'ont pas saisi les multiples chances qui leur étaient données. L'énergie de la chute est pratiquement épuisée. Il n'y a plus qu'une issue, cheminer vers l'un universel. Chers téléspectateurs, chers amis, le chemin qui mène à l'un universel est l'accomplissement progressif des 10 commandements de Dieu et des enseignements du sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth qui nous conduisent peu à peu à l'amour de Dieu et du prochain, à une vie dans l'unité universelle. C'est avec ces paroles que nous concluons notre émission. Si vous le souhaitez, retrouvez-nous pour la prochaine émission de cette série, dans laquelle, comme annoncé, nous entendrons les explications données actuellement par la science au sujet de la formation de la Terre. Au revoir et à bientôt.